Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Marilyn Hérault.
Restez avec nous, on va vous faire gagner dans un instant les passes Spirou, 4 passes pour le Grand Parc près d'Avignon.
J'étais parti vérifier, ça appelle énormément. Le 13e appel.
Merci,
vous pouvez continuer, c'est pas tout à fait, il y a eu un petit bug au standard et ça continue, vous pouvez continuer d'appeler.
0826 300 300, c'est le numéro
plus
important.
Les grands débats du matin.
Avec nos éditorialistes Arlette Chabot et Philippe Bilger. Bonjour tous les deux.
Oui, et dans un instant, Michael Darmon aussi, dans quelques minutes aussi, qui sera avec nous pour son livre Les secret d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. On parlera aussi à 9h de Facebook qui change de nom, vous avez vu, il veut s'appeler Meta, bref, il y a une tempête qui souffle sur Facebook et ils sont en train d'essayer de revoir un petit peu les choses, tempête politique sur aussi la protection des données, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points à revoir. Mais vous savez que finalement, Philippe Bilger, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ce week-end ?
Alors là, Pascal, occupe...
Vous pourriez m'appeler Patrick.
Pardon.
Oui.
Patrick, pardon, c'est Alzheimer
matinal. Appelez-moi Roger, si vous voulez, aussi.
Roger.
Bonjour Bernard.
Et Dieu sait que j'ai beaucoup Patrick dans la tête, franchement. Mais je vais...
Non, il n'y a pas quelque chose d'important pour vous ce week-end ?
Le changement d'heure, peut-être.
Voilà.
Bien écouté Sud Radio.
Oui. Lionel est avec nous et veut réagir sur ce sujet avant de revenir aussi à la politique, bien sûr. Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel, vous êtes à Grasse, c'est ça ? Bonjour, c'est ça. Bienvenue.
Bonjour à toute l'équipe.
Oui. Lionel, alors sur le changement d'heure.
C'est une plaie, j'en peux plus. C'est insupportable, en fait. En vrai, vous savez, moi, je suis dans le j'ai ma société, dans le bâtiment.
Ouais.
À partir de ce week-end, je suis condamné à finir à 5h30, ce qui est juste insupportable. Donc, certains y trouvent leur compte, moi, pas du tout.
Ouais.
Donc, autant l'année passée, je me suis fait avoir, autant cette année, par contre, j'ai acheté toute une gamme de projecteurs partout.
Ouais.
Donc, je vais pouvoir continuer à bosser comme j'ai envie. Et en fait, ce changement d'heure a plus aucun sens. Autant à l'époque, ça pouvait avoir un intérêt. Mais là, concrètement, on va se retrouver à 5h30 à être dans le noir. Il y a beaucoup de gens qui bossent dehors. Faut pas que les gens, quand même, oublient ça. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent au bureau aussi tardivement. Donc, en fait, cette histoire d'économie d'énergie est complètement bidon, parce que les gens continuent à bosser, allument toutes les lumières, restent au bureau. Et des mecs comme moi vont utiliser des projecteurs pour pouvoir bosser. Foutez-nous la paix avec ce changement d'heure. C'est bon, stop.
Mais alors, vous voudriez quoi, vous ? Garder plutôt l'heure d'été ou garder l'heure d'hiver, tout le temps ? L'heure d'été ?
Non, l'heure d'été. Écoutez... Au moins, il fait nuit un peu plus tard. Le matin, c'est sûr, on peut commencer. On a quand même un petit décalage, mais c'est moins gênant que cet horaire d'hiver qui vous plombe le moral en plus. Il fait nuit à 5 heures, c'est insupportable.
Ouais.
Vous avez le moral complètement dans les chaussettes. Non. Il faut qu'ils arrêtent, mais ils devaient arrêter. Encore une fois, un truc qu'ils avaient dit qu'ils feraient et finalement qu'ils n'ont pas encore fait.
Ouais.
Bref, ça commence à être récurrent, ça aussi, c'est un peu pénible.
Ouais.
Vous êtes dans la majorité parce que 86% de nos auditeurs ce matin répondent effectivement qu'il faut arrêter avec les changements d'horaire.
Si le gouvernement suivait la majorité, croyez bien que...
qu'il y avait eu ce sondage, vous savez, qu'il y avait
sûr,
été
ouais.
cette consultation qui n'a pas été suivie. Au-delà de ça, d'une part, il y a ce changement d'heure, et puis, il y a derrière un problème politique, c'est qui démontre que l'Europe, parfois, ça patine et que c'est compliqué de s'entendre à 27, Arlette Chabot, parce que, initialement, il devait y avoir une décision uniforme, sauf qu'on s'en aperçoit, comme sur beaucoup d'autres sujets, qu'à 27... pas simple de trouver, de mettre tout le monde d'accord, quoi.
C'est une évidence. Alors, soit on laisse chacun libre de décider, mais alors, vous voyez la panique avec les horaires, c'est déjà compliqué quand le Royaume-Uni était avec nous dans l'Union européenne. C'est un bazar. Le problème, c'est qu'il faudrait que la décision soit vite prise. Parce qu'il y a à la fois les divisions, mais ensuite, il faut voter. Alors, le Parlement européen, c'est des procédures très longues.
Ouais.
Effectivement, on n'avance pas. Voilà. Alors, je veux dire, on peut considérer que c'est dramatique, mais c'est moins dramatique que sur d'autres sujets, évidemment.
Bien sûr. Mais c'est une illustration.
À la fois les divisions, parce que c'est des habitudes culturelles, parce que les gens ne vivent pas dans les mêmes lieux, évidemment, si on est à l'est, à l'ouest, au sud... Et c'est des habitudes de vie et chacun est différent. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait un moment ou un autre, on dise « Ok, on change, Alors, si on change, on change vraiment. Et on n'attend pas 3 ans pour le faire.
Ah ouais. Philippe Bilger, votre avis ?
Mais je rejoins ce que dit Arlette, bien sûr. Mais le problème supplémentaire, c'est que je crois que beaucoup de gens ne sont pas persuadés de la validité de ce changement d'heure. Ce qui me frappe, c'est qu'en permanence, on nous impose des changements au sujet desquels on n'a pas beaucoup de lumière. Probablement, il y en a certains qui considèrent que c'est incontestable, mais d'autres qui disent que c'est parfaitement inutile. On attend de savoir véritablement.
Oui, oui, c'est vrai. Et ça, c'est l'une des difficultés, bien sûr. Et on le voit, d'ailleurs, les discussions actuellement en Europe autour de la Hongrie, autour de la Pologne, montrent bien que cet élargissement a provoqué, en fait, cette complexité supplémentaire de pouvoir prendre, en fait, des mesures, et que, bien souvent, certains ont envie de revenir un petit peu en arrière pour prendre, en fait, des décision un petit peu plus souveraine, pour rebondir sur notre invité qui était là tout à l'heure, qui est pour la souveraineté, hein, Florian Philippot. Il y a un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas entendu.
Certains pays venus de l'Europe de l'Est, ils sont très contents d'être dans l'Union européenne parce qu'elle leur apporte quand même beaucoup d'avantages, beaucoup d'argent, ce qui n'est pas négligeable.
Ça leur a apporté énormément, bien sûr.
Énormément, ça continue à leur apporter, même si aujourd'hui il y a effectivement des pressions sur le versement ou non des aides prévues dans le plan de relance, parce qu'effectivement, ils ne veulent plus respecter les règles de l'Union européenne. Donc le problème de l'Union européenne, c'était aussi un peu le cas des Britanniques. On prend ce qui nous intéresse et on ne veut pas de ce qui nous emmerde, si j'ose dire.
Ouais.
Donc il faut à un moment ou à un autre quand même choisir. On est dedans, on est dehors. Au moins, Boris Johnson est allé jusqu'au bout de sa logique.
Oui, absolument. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs aussi avec Michaël Darmon qui arrive dans ce studio. Bonjour Michaël, au passage.
Bonjour.
Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise, un quinquennat qui va se terminer justement par la présidence de l'Europe, en fait, pour Emmanuel Macron. Ce qui est d'ailleurs, entre nous, absolument, en fait, scandaleux au niveau, en fait, du calendrier. On aurait pu revoir et évidemment harmoniser les choses, parce que comment voulez-vous qu'un président mène la campagne dans son pays quand il doit être à la tête de l'Europe ? S'il y a une crise, en fait, en Europe, il devra s'occuper, gérer de ça, tout en menant, en fait, sa campagne. Ça n'a pas été très bien étudié, en fait, cette question, quoi, Michaël. Hein. Je vous prends, en fait, au dépourvu, là, parce que
pas,
en arrivant, mais
je porte pas plainte, mais le comment dirais-je, le fait justement est que du côté d'Élysée, on pense que c'est un avantage.
Ça a été décidé
de cette manière-là. C'est un calendrier que je pense est indépendant de la campagne présidentielle française.
Oui, mais ça n'avait échappé à personne que cette campagne n'a pas été décidée. Enfin, et le calendrier français n'a pas été décidé il y a 6 mois. Hein.
Bien évidemment, mais en même temps, je dirais que ça peut poser plus un problème pour aussi Emmanuel Macron, parce que effectivement, comme vous le dites, il va falloir à la fois se montrer très européen sur toutes les tribunes de la présidence de l'Union, et puis parler à l'Hexagone et parler à une population qui reste avec un ressentiment vis-à-vis de l'Europe et qui reste encore bien à convaincre vis-à-vis de ce projet européen. Et c'est toute la difficulté. Bon, on sait qu'il aime parier et aime surfer sur les volcans.
C'est un pari, la présidence de l'Union européenne, parce qu'au fond, il aurait pu trouver un arrangement, certains avaient proposé de décaler, d'inverser, pour le libérer, parce que c'est la campagne présidentielle. Mais
non, puis même par rapport aux autres candidats en France, quoi. Parce qu'il va y avoir de la visibilité.
Mais
quoi.
C'est un pari qui peut être perdant, si effectivement les dossiers qu'il compte mettre en avant, et je pense notamment à l'immigration, s'il n'arrive pas à faire avancer ces dossiers, et à mettre effectivement ses partenaires d'accord pour modifier les règles. Donc, il peut gagner, mais il est européen, donc a priori, il dit qu'il va bénéficier
bien sûr,
de l'élan, mais c'est pas du tout évident. D'autant que en Allemagne, le partenaire ou la partenaire, mais le partenaire en l'occurrence a
non,
changé.
C'est vrai.
Ça sera pas facile.
Faisons un tout petit parallèle, en fait, simple. Imaginez, en fait, un chef d'entreprise qui doit reconduire et relancer, en fait, des contrats pour son entreprise, c'est particulièrement important. Et au même moment, on lui demande de s'occuper, en fait, du conseil d'administration d'une autre boîte qui est en grande difficulté. Donc, voyez où est la difficulté,
il vous répondra qu'il fait partie du même groupe.
Mais de ce point de vue-là, effectivement, les sujets sont liés. Patrick,
Philippe Bilger,
le président a été bien conscient du risque que vous évoquez. C'est pour cela, ironiquement, qu'il a commencé sa campagne bien avant.
Oui. Merci. Allez, on va continuer dans un instant avec vous. On va reparler quand même aussi de Facebook, qui change de nom et qui essuie une tempête. Hein. Tout à l'heure à 9h, la grande spécialiste Arlette Chabot nous définira et nous décryptera ce chanteuse. Ouais. Ça, je plaisante, évidemment.
Parce ah, tant que... mieux
Plaisantez. Non, on aura... C'est pas gentil de se moquer,
on aura Thomas Forêt, qui sera avec nous du réseau Waller, le réseau social français. Et puis ensuite, eh bien, on viendra dans les détails aussi, tout à l'heure, pendant une bonne demi-heure, avec Michaël Darmon, sur les secrets de ce règne d'Emmanuel Macron dans les coulisses d'un quinquennat de crise. C'est aux éditions de l'Archipel et ça vient de sortir. D'ici là, on va prendre aussi notre gagnant quand même, hein, Marise.
Oui, le gagnant du parc Spirou, exactement. Alors, c'est Sophie qui a gagné 4 passes pour le parc Spirou Provence vers Avignon. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Bonjour Sophie.
Déjà, félicitations.
Oui, merci beaucoup.
Bah écoutez, on est ravis de vous offrir donc 4 passes pour le parc Spirou Provence. Donc c'est vers Avignon, il y a plein d'attractions rien que pour vous. Vous allez adorer, vous pensez y aller avec qui?
Bah, mes deux filles et un ami.
Ah bah écoutez, c'est super. Félicitations.
Voilà. Merci beaucoup.
Vous le connaissez déjà ou pas, ce parc?
Parce que vous n'êtes pas très loin. Ah non, j'en ai jamais entendu parler.
C'est pas vrai, alors que vous êtes dans la région d'Avignon?
Eh oui.
En plus, il y a des attractions.
À Toulouse, c'est pas... Oui,
ah non, vous êtes à Toulouse.
Ah, oui.
Ah, on nous avait dit, d'accord, j'avais cru comprendre que vous étiez, effectivement.
En tout cas, il y a des attractions pour toute la famille, dès 2 ans, il y a même des petites attractions pour les tout-petits. Des roller coasters pour les plus grands, il y a plein d'attractions géniales. Bravo, en tout cas, félicitations.
Merci beaucoup.
Bravo et bonne journée, bon week-end.
Merci pour vous aussi.
Allez, dans un instant, les grands débats continuent. Vous pouvez nous appeler 0826-300-300, parlons vrai, vous le savez, sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Marie-Line Hérault.
Il est 9h06 sur Sud Radio, c'est la suite des grands débats du matin avec nos invités, nos éditorialistes Arlette Chabot et Philippe Bilger, et un invité, Michaël Darmon, journaliste, essayiste, romancier, auteur des Secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions de l'Archipel.
Oui, et à votre avis, il parle de qui? Bah évidemment, hein, d'un certain Emmanuel Macron, qui est dans un beau fauteuil, hein, en une de votre livre, Michaël Darmon,
ah oui, éditions de l'Archipel. Les voyages permettent effectivement
À travers votre livre, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, hein, on ira en détail, ça nous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne en fait la Macronie de nouveau, la Macronie qui est en route évidemment aussi pour la présidentielle 2022. On reviendra aussi avec Arlette Chabot et Philippe Bilger quand même sur l'ébullition dans cette campagne et peut-être le sondage en fait et la balise de l'IFOP qui montre que les gens sont toujours un peu révoltés en fait aujourd'hui, mais un peu moins quand même qu'il y a quelques années et davantage résigné. Avant cela, coup de projecteur quand même sur Facebook. Alors parce que vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé, il y a ce changement de nom avec Meta, un vrai faux changement de nom, on va voir ça dans un instant. Mais ce qui est intéressant aussi, dans le fait, avec Thomas Forêt, on va en parler. Bonjour Thomas Forêt.
Bonjour Patrick Roger.
Je rappelle que vous êtes le patron et fondateur du réseau social français Waller, qui est un réseau qui est surtout utilisé par les entreprises et qui, contrairement donc à Facebook, protège vos données. Ça, c'est quand même assez essentiel. Avec vous, dans le factuel du matin, Adeline Divou, on va voir aussi ce Facebook alias Meta, avec son nouveau nom, ce qui va changer, hein, puisqu'il y a derrière une petite révolution qui est annoncée. De quoi s'agit-il alors?
Alors, le métaverse, c'est de la réalité virtuelle et augmentée. En gros, on aura un avatar qu'on pourra habiller avec des vêtements virtuels. Bien sûr, il faudra payer, un peu comme dans les jeux vidéo, quand les joueurs veulent personnaliser leur héros. Ce sera donc un écosystème avec un système d'exploitation du commerce digital, des studios de contenu, mais aussi évidemment une plateforme sociale. En allant dans le métavers, on pourra par exemple aller danser avec un casque de réalité virtuelle, toujours dans une boîte de nuit avec des personnes qui sont physiquement à des milliers de kilomètres de chez nous, et ça sans bouger de son canapé. Pour l'instant, tout reste à inventer pour mettre en place ce grand projet. 10 000 personnes travaillent déjà dessus au sein du Facebook Reality Lab. 10 000 autres ingénieurs devraient les rejoindre d'ici 5 ans. On devrait déjà en voir les prémices dans les 3 prochaines années.
Ah bah ça fait rêver. Hein. Une société du gaming, finalement, en quelque sorte, c'est ça, quoi, du jeu, hein, qui va être partout. Merci Adeline Divou, on va en parler avec vous. Thomas Forêt, donc, ce que vient de dire Adeline, c'est ça, ce qui se prépare, c'est le méta-univers, quoi, en quelque sorte. Quoi. C'est oui, pour c'est, ça que c'est... Facebook prend ce nom, quoi.
Oui, c'est le rêve de Zuckerberg. C'est le rêve d'ailleurs des gens de la Silicon Valley de reprendre en fait, de recréer le monde. Hein. C'est tout ce rêve transhumaniste, c'est-à-dire finalement se mettre à la place des dieux. Moi, je trouve que c'est là où ça déconne complètement, pardonnez-moi, mais ouais. On nous promet effectivement cette révolution. Moi, j'ai fait quelques messages sur les médias sociaux. L'image pour illustrer ça, moi, à chaque fois, je prends un gamin avec un casque,
ouais.
Masqué du réel. Ce qui manque à nos gosses aujourd'hui, c'est le réel. Et voilà Zuckerberg, une fois de plus. D'ailleurs, vous l'avez dit, Adeline,
oui.
Vous l'avez dit, en fait, ça sera payant d'abord. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, ce que tout ça masque, c'est les scandales qui sont arrivés il y a quelques semaines. Enfin,
on est habitué. Alors, hein. on on va y revenir. Oui. C'est sur la protection des données. Quoi, hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a eu une fuite, on en a appris il y a quelques temps, alors que Facebook affichait en fait certaines vertus en disant non, écoutez, il n'y a pas d'exploitation plus que ça. Et on s'est aperçu à travers donc des fuites d'une ancienne personne qui était au sein d'un poste assez élevé de Facebook, que bien sûr il y avait cette exploitation et qu'il n'y avait pas une protection aussi efficace que ça des données, quoi.
Oui, non seulement il n'y a pas de protection, mais ce que révèlent ces papiers, c'est qu'il y a une vraie volonté d'arbitrage entre évidemment une modération des contenus violents et extrêmes et le profit, et c'est systématiquement arbitré pour le profit.
Ouais.
Voilà, c'est une entreprise privée, ne l'oublions pas. Et moi, ça m'inquiète. Alors évidemment, cette technologie de métavers telle qu'elle est annoncée, elle est très futuriste. Hein. Zuckerberg a fait une vidéo hier d'une heure et demie, qui est une vidéo de synthèse en fait. Hein. Évidemment, la technologie n'est pas encore là. Mais si cela advient, franchement, c'est un monde dont personne ne veut. Et tout le monde aura l'impression de le vouloir. Moi, c'est ça que je trouve fou. Alors, je voudrais rebondir aussi sur un autre sujet. Ça a été dit. C'est qu'il promet, parce qu'il fait de la communication, ils promettent 10 000 embauches en Europe. Alors là, moi, ça me révolte, évidemment, parce que qu'on laisse nos ingénieurs et nos scientifiques travailler pour nos entreprises. Hein. Franchement, on n'a pas besoin de Facebook sur notre territoire.
Et ça, c'est un patron d'un réseau social en France qui essaie de se construire et d'émerger en Europe.
Ouais, qui essaie d'embaucher aussi, tout simplement. Hein,
ouais,
c'est pragmatique.
Ouais. Parce qu'ils vont proposer plus, parce qu'ils ont plus d'argent, etc.
Évidemment,
bien sûr.
Les GAFA, non seulement volent nos données sans vergogne, mais en plus, volent nos talents.
Ouais.
Voilà, moi, je trouve ça révoltant, évidemment, et au-delà de la révolte, parce que c'est pas suffisant. Il faut vraiment que les consciences politiques émergent. Il est temps que l'Europe, la France, mène une vraie stratégie offensive en matière technologique et numérique, ce qu'elle ne fait pas.
Ouais, ouais. Il y a eu, on avait cru comprendre il y a quelque temps, une volonté quand même de se rebeller face à ça, et ça ne va pas très loin, ce que vous dites, quoi. Au niveau européen.
Effectivement, oui. Alors les Européens, voilà, c'est le DMA, c'est la législation, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est l'investissement dans les technologies locales, dans les entreprises locales, voilà.
Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train d'assister ici en Europe, finalement, au match comme un match de tennis entre d'un côté les États-Unis et puis de l'autre la Chine, donc qui est montée en puissance avec son réseau TikTok et beaucoup d'autres, quoi.
Absolument, on est des spectateurs, même pas des arbitres, hein, par ailleurs,
ouais.
Des spectateurs, mais des spectateurs actifs, parce qu'en réalité, c'est nous les consommateurs, le plus grand marché de Facebook, puisqu'on parle de Facebook, pardon, de Meta,
ouais.
C'est l'Europe. C'est les consommateurs européens.
Ah bon ? Ah
bien
oui,
sûr,
parmi... ah
ouais. C'est le plus gros marché. Voilà, ouais. Si on fait la somme de tous les pays européens.
Ouais.
Voilà, donc non, on n'est pas, on est à la fois spectateurs, on est ceux qui sont exploités au sens exploitation de données.
Ouais. Ouais.
Et surtout, oui, quand est-ce que cette voie européenne va pouvoir émerger ? Moi, j'appelle de mes voeux depuis très longtemps, et surtout, j'essaie de la traduire en actes, parce qu'il n'y a que les actes qui comptent.
Oui, ça vous fait réagir du côté... Vous êtes plus habitué à la politique, Michaël Darmon, Arlette Chabot et Philippe Bidger. Michaël Darmon ?
Oui, mais en fait, ce que l'on constate, c'est que d'abord, je suis étonné que l'on s'étonne. Parce que le projet Facebook est connu depuis des années, depuis pratiquement sa création. C'est tout simplement l'installation d'un projet qu'on appelle à vocation libertarienne, c'est-à-dire en fond de remplacer les États. Et de faire en sorte d'être dans une logique de contrôler, de réorganiser effectivement une nouvelle civilisation sur le numérique, ce que Yuval Harari a appelé le dataïsme, qui est la nouvelle religion. Et puis après, ce qui m'étonne également, c'est qu'effectivement, les Européens, voire les Français, sont toujours les premiers utilisateurs des méthodes qu'ils dénoncent. C'est en France que McDonald's fait depuis des années son plus gros chiffre d'affaires, et Facebook a été le média des Gilets jaunes. Donc c'est quand même aussi paradoxal. C'est-à-dire que ce média a été celui de ceux qui justement se sont révoltés, se sont contestés, mais ils ont découvert ça, ils l'ont utilisé comme contre-média. De ce point de vue-là, et il y a quand même la préscience de ce qui se passe.
Et aujourd'hui, comme YouTube, vous ne pouvez plus faire exactement et dire ce que vous voulez sur ces réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est bien qu'il y ait un peu de contrôle. Trop, en revanche, là, c'est autre chose, parce qu'on rentre dans un autre univers où on sera complètement ce que vous avez dit, c'est-à-dire contrôlé par ces puissances qui vont remplacer les États, quoi. Bien sûr. Arlette Chabot.
Moi, je reviens sur entre Chine et États-Unis. Je veux dire, l'Europe a raté le coche et vous dites qu'il faut rattraper. Je pense que c'est irrattrapable. C'est-à-dire, c'est fini. On a raté le virage et quand on rate un virage, généralement,
ce n'est jamais fini quand même. L'histoire, on n'est jamais complètement d'accord avec vous.
Comment ? D'abord, il faut qu'on soit d'accord. Il faudrait qu'on ait un projet et surtout, on est en retard.
Mais il n'y a pas d'argent.
Et il n'y a pas d'argent, il faudrait beaucoup d'argent sur la table.
Alors d'abord, si on prenait quelques mesures simples, à savoir flécher la commande publique sur les entreprises françaises, par exemple. Mm-hmm. Bon, ça déjà, tout de suite, il y aurait un peu plus d'argent, parce que vous imaginez les millions qui partent chez Microsoft aujourd'hui, qui c'est un exemple, qui équipent toutes nos administrations. Voilà, donc ça l'argent, c'est pas uniquement l'argent des fonds d'investissement, c'est aussi l'argent de la commande, et toutes ces entreprises américaines et chinoises se sont développées sur la commande publique. Alors effectivement, on peut penser que c'est trop tard. Moi, je ne le pense pas, parce que sinon, ça veut dire que ce que je fais chaque jour sert à rien. Mmh. Moi, je ne pense pas que ce soit trop tard. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Internet et la technologie, on en est encore à l'âge de la préhistoire. C'est quoi ? Il y a 30 ans, 50 ans minimum. Vous imaginez, sur des milliers d'années de l'histoire humaine, c'est rien du tout. Et simplement, il y a effectivement un effet diesel de l'Europe en permanence. C'est le vieux continent, quand même. Et cet effet diesel, il n'est pas uniquement négatif. Ça veut dire qu'il y a une génération aujourd'hui d'entrepreneurs dont je fais partie qui se lève. Et cette conscience, moi, quand j'ai commencé Waller il y a 10 ans, personne n'en parlait. C'est-à-dire que, effectivement, il y a plutôt un retard de prise de conscience, mais comme ces technologies sont sans cesse en révolution, en réinvention et en recréation, en réalité, tout est encore possible. Et je ne dis pas qu'il faut prendre le train en marche, je dis qu'il faut effectivement rebâtir. C'est-à-dire qu'il y a une très très mauvaise idée qui circule en permanence, c'est qu'il faut essayer d'être les meilleurs sur les futures innovations. On entend en permanence parler nos ministres par ailleurs de parier sur l'hydrogène, de parier sur la blockchain, sur l'intelligence artificielle, toutes technologies par ailleurs qui sont déjà très très avancées, beaucoup plus avancées que ce que nous faisons en Europe aux États-Unis. C'est-à-dire que si on place nos efforts sur ces technologies uniquement, il faut le faire bien sûr, mais pas uniquement, on sera à nouveau en retard, et sans cesse en retard, on va courir après des lièvres qui sont déjà arrivés depuis longtemps. Moi, je pense qu'il faut rebâtir, c'est-à-dire se permettre de recréer certaines technologies, les OS, les plateformes, des choses qui peuvent paraître moins innovantes
mais qui sont la base, des
socles.
Michael Darmon et Philippe Bilger, et puis ensuite on marquera une pause.
Je vous entends, vous écoutez, vous parlez technologie, et Zuckerberg, il parle civilisation. Tout son message sur Metaverse, c'est de dire on garde le principe, c'est rassembler les gens. C'est-à-dire qu'au fond, il s'est positionné le premier sur vraiment l'avènement. On peut la contester, il faut la réguler, il faut pouvoir y résister, les taxes, tout ça, il faut pouvoir mettre en place ce système. Mais il y a vraiment la décision de créer un nouveau mode de civilisation que d'ailleurs la pandémie, le télétravail, les confinements ont considérablement accéléré. C'est ça le sujet. Et à côté de ça, vraiment, et l'Europe et la France n'ont pas voulu faire ces choix pour d'autres raisons. Et bien évidemment, ce sera vain de tenter de courir après.
Oui. Philippe Bilger, un commentaire ou un commentaire pour la politique.
Allez-y. Un commentaire très rapide, mon cher Patrick. Ouais. Je n'ai pas la science de Thomas Waller, mais pour le réactionnaire...
Décidément,
en ce moment, je fais des synthèses un peu audacieuses.
Ouais.
Mais par rapport au réactionnaire que je suis, tout de même, ce monde qui nous prépare me fait très peur. Il n'a aucune séduction pour celui qui essaye d'être empli de culture et humaniste. D'abord, je ne serai plus là, bien sûr, ça n'est plus extraordinaire.
Vous êtes éternel.
Grâce au transhumanisme,
Patrick, Patrick, je n'aime déjà pas la science-fiction au cinéma, alors si vous la mettez dans ma propre vie...
Allez, dans un instant, on ne va pas parler que de science-fiction. Les secrets d'un règne, on va revenir dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Que vous aimiez ou pas Emmanuel Macron, ça c'est intéressant de le savoir, avec Mickaël Darmon qui sera avec nous dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Marilyn Hérault.
9h21 sur Sud Radio, c'est la suite des grands débats du matin avec nos invités, nos éditorialistes Arlette Chabot et Philippe Bilger, et un invité, Mickaël Darmon, journaliste, essayiste, romancier, auteur des Secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions de l'Archipel.
Oui, Mickaël Darmon, donc vous avez voulu raconter un peu ce quinquennat en coulisses, hein, donc, parce que vous avez pu rentrer dans certaines coulisses. Ça démarre d'ailleurs par un déjeuner où Emmanuel Macron, je croyais qu'il n'aimait pas les journalistes, mais finalement, il les appelle quand même pour déjeuner. Hein. Il leur envoie des
changé,
textos.
Ça a beaucoup changé depuis le début du quinquennat, effectivement. Où il était question au début du mandat d'Emmanuel Macron d'un vrai blackout, puisqu'on nous expliquait très clairement vous ne le verrez pas, le président, vous ne le verrez plus, parce qu'il fallait également rompre avec ce qu'il avait vu chez François Hollande, où il y avait eu les journalistes, on le sait, qui avaient vraiment porte ouverte.
Tout était dans les livres, après, en fait,
là, donc lui, il a pris au début du mandat totalement le contre-pied. Puis après, il y a eu une évolution. Et à la sortie du confinement, il y a eu effectivement une vague de déjeuners de journalistes avec le président de la République et qui prenait son temps pour effectivement à la fois se déconfiner, ouais. Pour montrer comment il allait aborder cette deuxième phase, ce nouveau monde qu'il avait sans arrêt incanté et raconté, annoncé, qui tardait vraiment déjà à venir. Et puis au cours duquel parce que ce sont des moments assez privilégiés où au fond il se lâche, comme on dit, il parle de manière très très libre, ouais. Et donc à partir de là on commençait à comprendre les grandes lignes de ce qui allait se mettre en place, notamment le fait que par exemple pour Édouard Philippe c'était terminé, ouais. Même s'il a évidemment, il n'allait pas nous dire au cours d'un déjeuner à des journalistes,
c'était évident,
et moi ça me confirmait ce que on sentait qui était ma conviction personnelle, c'est que Édouard Philippe, plus ses sondages augmentaient, plus il allait vers la porte de la sortie, c'est-à-dire que au fond, c'est parce qu'il y avait des bons sondages qu'il allait être limogé, non pas l'inverse.
Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas d'ombre à son chef ?
Parce que c'est la logique de la Ve République qui a épousé tout simplement Emmanuel Macron. Hein. Vous savez, il a commencé dans la notion de rupture et de vouloir être représentant d'un monde nouveau, et en réalité, il est un peu le dernier d'un monde ancien. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas meilleur que le président en Ve République. Ouais. Et il avait besoin, à ce moment-là, de reprendre du lustre et de se séparer de celui qui était le chouchou des sondages, qui était devenu la star du déconfinement et du confinement, que les Français, pour des raisons mystérieuses, considéraient comme étant quelqu'un d'extrêmement brillant.
C'est lui qui avait mis le feu aux poudres, si je puis dire.
Avec un peu de mémoire, les 80 km/h, les ronds-points, les gilets jaunes, c'est quand même Édouard Philippe. Je pense que Emmanuel Macron, ça ne l'a pas oublié. Et à ce moment-là, on comprend, lors de ce déjeuner, quand il nous dit, de toute façon, 5e République, c'est le président qui est toujours responsable, je dois poser un nouvel acte du quinquennat, je vous rappelle que je suis très libre. On avait compris, il n'y avait pas eu un mot en plus pour Édouard Philippe, que c'était terminé.
Ah oui, pas un mot pour... Alors, et vous expliquez, vous révélez en fait dans ce livre que, donc certes, il y a eu Jean Castex, mais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la boucle.
Oui, celui qui a été en lice face à Jean Castex, qui est un petit peu son pendant, mais du côté plutôt centre-gauche, eh bien, c'était Jean-Yves Le Drian, qui a été casté, entre guillemets, jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Oui, parce que moi, j'ai
en parlait, mais on disait...
J'ai eu des conversations avec Jean-Yves Le Drian qui me disait, je suis en contact avec le président de la République, il me demande de me préparer, c'est envisagé, c'est une discussion, mais tout en le voulant pas, lui, Le Drian. Il avait dit, j'avais déjà été contacté. C'est vrai qu'à la sortie des Gilets jaunes, il est déjà pressenti. Mais il refuse. Là, il me disait à ce moment-là, c'est une autre mission, c'est jusqu'à la fin du quinquennat, il y a un risque démocratique, mais avec qui on va gouverner, comment on va faire ? Ouais. Et au dernier moment... Ouais. Il avait compris que, comme d'habitude, Emmanuel Macron repousse la décision, tergiverse et fait attendre.
Ouais, ce qui est assez incroyable, Mickaël Darmon, mais également peut-être Philippe Bilger et Arlette Chabot sur une réaction, c'est que c'est quand même pas la même musique avec quelqu'un comme Jean Castex qui, lui, donc était davantage, je dirais, dans les coulisses jusqu'à présent, et qui est de droite, qui est issu clairement de la droite. Alors que Le Drian, lui, il aime être un peu plus en évidence, même si c'était quelqu'un de l'ombre pendant des années, c'est vrai, oui, je vous l'accorde. Mais de gauche, quoi.
Mais donc c'est le même profil. Non, c'est, d'abord, il n'est pas vraiment de gauche. Non, mais, franchement, il n'est pas vraiment de gauche, Le Drian. Il est plutôt centre-gauche, qui s'entend très bien, on va dire, avec la partie droitière du PS et la partie la plus à gauche de la droite. Donc, il peut parfaitement faire le lien. Et puis surtout, les profils sont les mêmes. Emmanuel Macron avait besoin de casser le ton sur ton. Il avait besoin de reprendre la lumière. Il avait besoin de reprendre un nouveau fondé de pouvoir. Parce que, franchement, le profil de Matignon sous le mandat Macron, c'est tout simplement signer les parapheurs et avoir et mettre en scène les décisions du président.
Ouais. Donc c'est Jean Castex. Quoi,
donc c'était Jean Castex, mais Jean Castex, il représentait le centre droit, parce qu'effectivement, tout allait au centre. Et puis, une forme de pérennité. Parce que Macron sort du confinement avec le sentiment très fort que la France a été très secouée et qu'il faut en réalité non pas la réinventer, mais la préserver. Et donc c'est Jean Castex qui est une sorte de haut technocrate du terroir et en même temps décision de maintenir et de reconstruire Notre-Dame avec la flèche à l'identique. À l'identique, on ne change pas, on maintient.
Arlette Chabot et Philippe Bidger, une réflexion peut-être sur ce choix justement qui était pour relancer ou en tout cas terminer le quinquennat.
Bah, effectivement, tout à fait d'accord. Évidemment, c'est une évidence qu'il fallait quelqu'un qui ne fasse pas d'ombre, qui soit Michael dit fondé de pouvoir. Alors effectivement, on ne va pas dire collaborateur, mais sous-collaborateur. Moi, je n'ai jamais cru à Jean-Yves Le Drian parce que je ne suis pas tout à fait d'accord quand même avec Michael. Il avait quand même une image de gauche. Oui. Ça aurait été interprété comme... Allez, un petit virage vers au moins un centre-gauche. Bien sûr que ce n'est pas un militant socialiste pur et dur, mais en tout cas, et en plus, franchement, pas forcément aussi facile à manipuler, à manœuvrer que Jean Castex. Franchement, alors là, au début, on a tous rigolé parce qu'il y avait l'accent, parce qu'il y avait les maladresses, mais aujourd'hui... On finit par le dire, ah, quand même, il fait le job. Ça doit être vraiment dur d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est une question qu'on ne s'est jamais posée avec Édouard Philippe, évidemment. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, Castex correspond bien à la période. On avait dit qu'il pouvait disparaître après les régionales, la défaite des régionales. Ben non, il est là et il fait le job. Et franchement... il y a du courage.
Allez, on va poursuivre dans un instant. Comment voyez-vous la période c'est souvent la question, l'interpellation d'Emmanuel Macron. Il dit, comment voyez-vous la période quand il voit des journalistes ou quand il leur envoie des SMS? Parce qu'il le fait beaucoup. C'est ce que va nous dire Emmanuel Macron.
Michael Darmon.
Michael Darmon, dans un instant.
Je suis
gagné par la bilgérite. En fait, c'est la bilgérite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Marie-Line Hérault.
9h31 sur Sud Radio, les grands débats du matin continuent. Encore 10 minutes de débat avec nos invités, Arlette Chabot, Philippe Bilger et Michael Darmon.
Oui, alors pour quelqu'un qui ne voulait pas parler avec la presse, il a parlé en permanence, quoi, Emmanuel Macron, en permanence. Il a eu d'abord les SMS, où il entretient beaucoup de SMS, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Et c'est vrai qu'il a cette petite phrase qu'il vous a sortie lors du déjeuner, comment voyez-vous la période ?
Oui, c'est qui est la version plus courtoise de comment tu vois les choses, qui était celle des SMS à l'époque où il en envoyait, effectivement, ou en tout cas certains qui étaient très fiers de montrer qu'ils avaient les SMS de Macron, donc c'était toujours assez amusant de constater. À une époque, il y avait ceux qui avaient le SMS, ceux qui ne l'avaient pas, bon voilà. Ouais. Après, il est devenu président, c'est autre chose. Bref, en tout cas, il a commencé effectivement de cette manière-là pour tout simplement lancer la conversation et puis capter un peu justement la façon dont les choses pouvait se passer du côté de la presse. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé dès le début et à la fin du confinement, c'est que alors qu'il avait expliqué à la télévision en avril 2020 « Nous devrons nous réinventer, moi le premier », en réalité, et c'est ce que je rapporte parce que c'est un proche qui me le confie, il me dit en réalité, ce qu'il dit à la fin de la sortie du confinement, c'est « Je ne peux plus réinventer. Il faut préserver ». Ouais. Et c'est ça qui est au fond le grand, le grand chambardement de la sortie du confinement, parce que il doit
préserver quoi ?
Préserver la France tout simplement. Il devait la transformer complètement. Ouais. Les crises successives, certaines de son fait, bien évidemment la pandémie pas de son fait, ont fait que
on aboutit. Les gilets jaunes avant, bien sûr.
On aboutit au fait que tout simplement la France doit être plutôt préservée parce qu'elle est plus en état d'être transformée d'une part, et deuxièmement le quinquennat est terminé. Oui. À partir du moment où il suspend la réforme des retraites qui était considérée comme la mère des réformes, celle qui devait ramener l'équité, la justice sociale, et qu'il est obligé de la suspendre quelque part, il en est un peu soulagé parce que ça devenait un Vietnam politique. Hein. Oui. À partir de là, le quinquennat est terminé. Il n'y a plus aucune énergie réformatrice. Il est chef de guerre et il doit gérer les affaires courantes jusqu'à maintenant.
Oui. Et puis, ce qui transparaît dans votre livre, c'est que finalement, décidément, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre entre qui et qui, entre le locataire de l'Élysée, je dis locataire, et le locataire de Matignon. On l'a vu quand même avec François Fillon et un certain Nicolas Sarkozy. Quelque part, on l'a vu également entre François Hollande et Emmanuel Valls. Et c'est la même chose, c'est ce que vous dites, alors qu'on croyait qu'ils s'entendaient bien, plutôt Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Bah non, c'est
la guerre. Ça a été une des grandes réussites de cette partie-là du quinquennat, c'est d'avoir masqué la réalité de la relation entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, qui a été tendue très très souvent sur beaucoup de sujets. Oui. Peu spectaculaire, mais très structurant, que ça soit la Corse, la réforme de l'audiovisuel public, et puis après, de manière beaucoup plus puissante, évidemment, et qui ont fait marquer la rupture. Il y a eu deux événements. Il y a le fait qu'Édouard Philippe a plutôt contribué aussi à empêcher Emmanuel Macron de suspendre le premier tour de l'élection municipale, ce qu'il voulait faire. Ouais. Mais il a laissé s'exprimer toutes les oppositions de droite et lui n'a pas fait grand-chose pour convaincre. Et puis surtout, ça a été aussi la manière dont la nuit du déconfinement du mois de juin, il a tout fait pour à ce moment-là l'arrêter parce qu'il manquait une signature, Édouard Philippe, parce qu'il manquait une signature du Conseil constitutionnel pour toute l'ingénierie juridique de ce déconfinement, parce que c'est quand même un moment extrêmement puissant. Et là, il a voulu tout arrêter. Il a même commencé à appeler les caméras de France Télévisions pour une déclaration qui, dans la soirée, qui devait tout reporter. Et là, l'Élysée a tout arrêté. Emmanuel Macron était intervenu fortement et a obligé à ce que ça se passe quand même. Et à partir de là, ce qu'il avait quand même l'intention de se séparer d'Édouard Philippe au moment des municipales, s'il n'y avait pas eu la pandémie. Ouais. Le confinement a repoussé donc l'échéance, et il confiait déjà Juppé, c'est fini, j'en ai assez, en comparant Édouard Philippe à Alain Juppé.
Alain Juppé. Avant Arlette, Philippe Bilger qui trépigne depuis un petit bout de temps pour deux remarques.
Non, non. Ouais. Non, je voulais dire à propos d'Édouard Philippe, il est évident qu'Emmanuel Macron l'a fait partir parce que il avait trop de lumière, mais je pense aussi qu'il lui a reproché, c'est ce que vient de dire un petit peu Michaël Darmon, trois erreurs graves qui ont un peu plombé le début du quinquennat. Quand on regarde ce qui a suscité du ressentiment, à chaque fois, ça vient d'Édouard Philippe, dont l'aura pourtant demeurait incontestable. Mmh. Et Édouard Philippe n'était pas un ectoplasme. Je ne veux pas dire que Jean Castex l'est, mais et ma deuxième remarque, je suis assez surpris de voir que Emmanuel Macron s'est assigné pour ambition aujourd'hui de préserver, alors qu'on peut penser que l'exigence régalienne de protection de la France, de mon point de vue, n'est pas assurée à la perfection, et c'est un euphémisme.
C'est-à-dire, Michael, et puis ensuite Arlette Chabot.
Quand il dit, comme je le comprends, il faut préserver, c'est-à-dire ne pas faire de réformes qui bouleversent beaucoup trop la société française. La réforme des retraites en était une. Elle venait immédiatement, on l'a vu effectivement après les Gilets jaunes, dont un des responsables, effectivement, était Édouard Philippe, mais pas que. Hein, il y avait aussi les petites phrases d'Emmanuel Macron. Il a aussi quand même contribué à alimenter le dossier. Hein, il n'y a pas que Édouard Philippe. Il y avait aussi Nicolas Hulot, qui avait sa part de responsabilité. Donc, en fait, les Gilets jaunes, c'est l'aboutissement de toute une série de toute une gouvernance organisée sur la pensée complexe, sur une forme d'arrogance, de hauteur du début du quinquennat, qui se manifeste et se cristallise avec cette révolte. Moi, j'appelais ça un soulèvement, qui est est l'événement structurant du mandat. C'est-à-dire que on le verra aussi encore très certainement, et on le voit dans la manière dont le quinquennat va se terminer et dans la manière dont les Français vont s'exprimer dans les urnes.
Oui,
Arlette Chabot. On comprend pourquoi dans son livre Impression et lignes claires, Édouard Philippe met autant de soins à définir ce que doit être la fonction du président de la République et la fonction du Premier ministre, c'est-à-dire le président de la République qui ne s'occupe pas de tout dans les détails. Donc on comprend, ça éclaire davantage la réflexion. Maintenant, question que je me permets de poser à Michaël Darmon.
Allez-y.
C'est quand on a écrit Révolution avant, pour ouvrir la campagne 2017 signée Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on écrit demain? S'il y avait un livre à écrire, évidemment, je ne suis pas sûre qu'il écrive un livre, et même je suis certaine du contraire. C'est quoi? C'est préservation?
C'est continuation? C'est-à-dire qu'en réalité, il fait exactement...
Mais il continue quoi? La réforme, c'est ça l'image de Marx.
Il continue le pouvoir, il continue la pratique du pouvoir. Au fond, il est assez mitterrandien, hein, et il a commencé avec sa manière, en disant révolution, comme vous venez de le rappeler. Au fond, le projet était de changer la vie au premier mandat, et au deuxième mandat, eh bien, tout simplement, il part de la Renaissance française, c'est-à-dire de l'Union nationale. On est dans cette logique-là qui consiste à dire, pour pouvoir garder le pouvoir, eh bien, on va faire du rassemblement. Et puis, on construit également ce qu'il a patiemment, méthodiquement construit depuis le début du quinquennat en projet politique, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen. Moi, je rapporte dans ce livre qu'il me confie, parce que par le hasard des agendas et des rencontres, je le vois quelques jours avant qu'il entre à l'Élysée en 2017, on est entre les deux tours de l'élection présidentielle, on discute un petit peu sur la façon dont ça va se passer, et il me donne cette phrase qui, moi, me sidère, parce qu'en fait, il donne toute la trajectoire du quinquennat, et il me dit « À la fin, il n'y aura que Marine Le Pen et moi. »
Oui.
Bon, et Zemmour.
Comme prévu, rien ne se passe comme prévu. Et évidemment, il a maintenant Éric Zemmour.
L'affiche jaunie, hein, c'est ce que d'ailleurs vous dites un petit peu à la fin de votre livre. Philippe Bilger, et ensuite deux, trois autres questions.
Non, c'est très vrai, mais moi je suis frappé de voir à quel point Emmanuel Macron, tout de même, Arlette demandait quel pouvait être le nouveau slogan d'aujourd'hui. C'est un slogan qui me paraît tout de même relever d'une sorte de contemplation et de narcissisme personnel. D'autres livres ont bien montré à quel point la principale finalité d'Emmanuel Macron, c'était de se cultiver et de s'honorer. Si les Français en profitent par ailleurs, tant mieux. Mais il est le centre de lui-même.
Ah ben oui, ben c'est probablement ce qui l'a conduit à l'Élysée, quoi. Hein. Michael Darmon.
C'est pour ça que parmi les citations qui démarrent le livre, j'ai choisi celle de Groucho Marx, quand il dit « Je vous céderai ma place, mais elle est déjà prise.
» vous avez évoqué Édouard Philippe. D'aucuns disaient « Oui, est-ce qu'il y aura un destin pour Édouard Philippe présidentiel, etc. » Vous qui le connaissez, puis qui avez enquêté en même temps à travers en fait ce livre.
Ce qui me frappe, c'est qu'Édouard Philippe, malgré les apparences, ne fait pas de politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une logique de conquête du pouvoir. D'ailleurs, quand on en parle avec des sondeurs, ils disent on sonde pas Édouard Philippe parce qu'on sait qu'il s'intéresse pas à l'élection présidentielle, à ce stade. Premièrement. Ensuite, moi, ce qui m'a frappé, et Arlette évoquait son livre, qui est un réquisitoire évidemment aussi très sévère contre Emmanuel Macron, hein, qui, même si ça se fait justement de manière impressionniste, hein, justement, voilà. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord, quand on veut être chef, on fait pas un livre avec son copain. On écrit seul. Ensuite, ce qui me frappe, c'est l'univers dans lequel il s'installe, c'est l'univers de la fiction. Il n'arrête pas de parler des séries politiques, des fictions, des qu'il écrit, et ils ont donné chaque chapitre de leur livre un titre de film. Il s'inscrit dans peut-être dans une sorte de méta-univers politique, on va dire, qui n'est pas celui de quelqu'un qui diffuse une électricité politique. Comme moi, autour de cette table, vous êtes approché les fauves politiques, ceux qui en veulent du matin au soir. Franchement, Édouard Philippe, dans son côté détaché, humour élégant et avec du talent d'écriture, il diffuse
c'est-à-dire
pas
qu'il
le fait
jusqu'au moment du thé, quoi. Et puis il arrête après.
Les Français auront de la mémoire. Les Français, quand ils s'approchent des campagnes, ils savent très bien que c'est aussi avec lui que ça s'est passé.
Un dernier mot, parce qu'on parlait de l'affiche potentielle qui était celle de Macron, Le Pen. Évidemment, et ce n'est pas ce qui va peut-être se jouer. Comment voyez-vous les choses, Michael Darmon ?
Selon la formule consacrée. Donc, ce qui me frappe déjà, c'est que on est évidemment toujours surpris. Hein, et là, l'événement de cette pré-campagne, c'est l'effondrement du socle de Marine Le Pen, qui est un événement politique majeur, et je dirais que Zemmour en est presque une conséquence et non pas le fait principal.
Il accélère,
il cristallise un phénomène qu'on avait déjà vu commencer aux élections régionales, ce qui veut dire que la conséquence principale, c'est que le ring est ouvert. Le match Le Pen-Macron est de plus en plus incertain.
Avec un ticket qui est de plus en plus bas pour le second
tour. Et donc à partir de là, la personne qui arrivera face à Emmanuel Macron aura certainement les clés d'une certaine manière de cette élection. Mais c'est vrai qu'il faudra aussi que lui explique et qu'elle soit capable de résoudre quelques énigmes. Est-ce qu'on est réélu pour la première fois hors cohabitation? Est-ce qu'on peut être rempart deux fois? Et est-ce qu'il peut effectivement faire comprendre aux Français qu'il est passé pour faire vite de Rocard à Giscard et qu'il a eu raison?
Oui, les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise, Michaël Darmon aux éditions de l'Archipel. Merci à vous d'être passé ce matin à Sud Radio, ces studios que vous connaissez bien. Et merci à vous, Philippe Bilger. Vous voyez, vous avez toutes vos chances encore, mon cher Philippe. Le ticket sera bas pour la présidentielle. Sait-on jamais?
Mais là, Philippe, Patrick, est-ce que j'ai une seconde? Juste pour dire à Michael que je ne suis pas sûr que Édouard Philippe ne soit pas un chef. Est-ce que il ne veut pas apparaître comme un chef d'une autre sorte? C'est très différent.
Oui, c'est possible. Oui. Tout est possible en politique. Merci,
pardon d'avoir rallongé, Patrick.
Oui.
Merci à vous. Merci. Il est 9h44 dans quelques instants. C'est la France à vos côtés. On va parler des déserts médicaux avec deux invités. Restez avec nous.
Phénomène récurrent depuis une trentaine d'années, ces déserts médicaux, et qui gagnent aujourd'hui toutes les régions.
Oui. À tout de suite sur Sud Radio.